Chapitre 15. La rue Tison et la rue Cloche-Percée. La Mole sortit du Louvre tout courant et se mit à fureter dans Paris pour découvrir le pauvre Coconas. Son premier soin fut de se rendre à la rue de l'Arbre Sec et d'entrer chez Maître Lahurière, car la Mole se rappelait avoir souvent cité au Piémontais certaines devises latines qui tendaient à prouver que l'amour, Bacchus et Cérès sont les dieux de première nécessité, et il y avait l'espoir que Coconas, pour suivre l'aphorisme romain, se serait installé à la Belle Étoile après une nuit qui devait avoir été pour son ami non moins occupée qu'elle ne l'avait été pour lui. La Mole ne trouva rien chez Lahurière que le souvenir de l'obligation prise et un déjeuner offert d'assez bonne grâce que notre gentilhomme accepta avec grand appétit malgré son inquiétude. L'estomac tranquillisé à défaut de l'esprit, la Mole se remit en route, remontant la Seine comme ce mari qui cherchait sa femme noyée, et arrivant sur le quai de Grève, il reconnut l'endroit où, ainsi qu'il avait dit à M. d'Alençon, il avait, pendant sa course nocturne, été arrêté 3 ou 4 heures auparavant, ce qui n'était pas rare dans un Paris plus vieux de 100 ans que celui où Boileau se réveillait au bruit d'une balle perçant son volet. Un petit morceau de la plume de son chapeau était resté sur le champ de bataille. Le sentiment de possession est inné chez l'homme. La Mole avait 10 plumes plus belles les unes que les autres, il ne s'arrêta pas moins à ramasser celle-là, ou plutôt le seul fragment qui en eût survécu, et le considérait d'un œil piteux. Lorsque des pas alourdis retentirent, s'approchant de lui, et que des voix brutales lui ordonnèrent de se ranger. La Mole releva la tête et aperçut une litière précédée de 2 pages et accompagnée d'un écuyer. La Mole crut reconnaître la litière et se rangea vivement. Le jeune homme ne s'était pas trompé. « Monsieur de la Mole, » dit une voix pleine de douceur qui sortait de la litière, tandis qu'une main blanche et douce comme le satin écartait les rideaux. « Oui, madame, moi-même, » répondit la Mole en s'inclinant. « Monsieur de la Mole, une plume à la main, » continua la dame à la litière, « êtes-vous donc amoureux, mon cher monsieur, et retrouvez-vous des traces perdues ?»« Oui, madame, » répondit la Mole, « je suis amoureux et très fort, mais pour le moment ce sont mes propres traces que je retrouve, quoique ce ne soit pas elles que je cherche. Mais votre majesté me permettra-t-elle de lui demander des nouvelles de sa santé ?» « Excellente, monsieur, je ne me suis jamais mieux porté, ce me semble. Cela vient probablement de ce que j'ai passé la nuit en retraite. »« Ah, en retraite ?» dit la Mole en regardant Marguerite d'une façon étrange. « Eh bien, oui, qu'y a-t-il d'étonnant à cela ? Peut-on, sans indiscrétion, vous demander dans quel couvent ?»« Certainement, monsieur, je n'en fais pas mystère au couvent des Annonciades. Mais vous, que faites-vous ici avec cet air effarouché ?» « Madame, moi aussi j'ai passé la nuit en retraite et dans les environs du même couvent. Ce matin, je cherche mon ami qui a disparu, et en le cherchant, j'ai retrouvé cette plume. » « Qui vient de lui, mais en vérité, vous m'effrayez sur son compte, la place est mauvaise. » « Que votre majesté se rassure, la plume vient de moi. Je l'ai perdue vers 5 heures et demie sur cette place en me sauvant des mains de 4 bandits qui me voulaient à toute force assassiner, à ce que je crois du moins. » Marguerite réprima un vif mouvement d'effroi. « Oh, contez-moi cela, » dit-elle. « Rien de plus simple, madame. Il était donc, comme j'avais l'honneur de le dire à votre majesté, 5 heures du matin à peu près. »« Et à 5 heures du matin, » interrompit Marguerite, « vous étiez déjà sortie. Votre majesté m'excusera, » dit la Mole, « je n'étais pas encore rentrée. » « Ah, monsieur de la Mole, rentré à 5 heures du matin, » dit Marguerite avec un sourire qui pour tous était malicieux et que la Mole eut la fatuité de trouver adorable. « Rentré si tard, mais vous aviez mérité une punition. » « Aussi, je ne me plains pas, madame, » dit la Mole en s'inclinant avec respect, « et j'eusse été éventré que je m'estimerais encore plus heureux 100 fois que je ne mérite de l'être. Mais enfin, je rentrais tard, ou de bonne heure, comme votre majesté voudra, de cette bienheureuse maison où j'avais passé la nuit en retraite lorsque 4 tire-laines ont débouché de la rue de la Mortellerie et m'ont poursuivi avec des coupe-choux démesurément longs. C'est grotesque, n'est-ce pas, madame? Mais enfin, c'est comme ça, il m'a fallu fuir, car j'avais oublié mon épée. » « Oh, je comprends, » dit Marguerite avec un air d'admirable naïveté, « et vous retournez chercher votre épée. » La Mole regarda Marguerite comme si un doute se glissait dans son esprit. « Madame, j'y retournerai effectivement, et même très volontiers, attendu que mon épée ait une excellente lame, mais je ne sais plus où est la maison. »« Comment, monsieur, reprit Marguerite, vous ne savez pas où est la maison où vous avez passé la nuit ?»« Non, madame, mais que Satan m'extermine si je m'en doute. »« Ah, voilà qui est singulier, c'est donc tout un roman que votre histoire. » Un véritable roman, vous l'avez dit, madame. Comptez-le-moi, c'est un peu long. Qu'importe, j'ai le temps. Et fort incroyable, surtout. Allez, toujours, je suis, on ne peut plus crédule. Votre majesté l'ordonne? Mais oui, s'il le faut, j'obéis. Hier soir, après avoir quitté deux adorables femmes avec lesquelles nous avions passé la soirée sur le pont Saint-Michel, nous soupions chez maître Lahurière. « D'abord, demanda Marguerite avec un naturel parfait, qu'est-ce que maître Lahurière ?»« Maître Lahurière, madame, dit la Mole, en regardant une seconde fois Marguerite avec cet air de doute qu'on avait déjà pu remarquer une première fois chez lui. Maître Lahurière est le maître de l'hôtellerie de la Belle Étoile située rue de l'Arbre Sec. »« Bien, je vois cela d'ici. Vous soupiez donc chez maître Lahurière avec votre ami Coconas, sans doute ?»« Oui, madame, avec mon ami Coconas, quand un homme entra et nous remit à chacun un billet. »« Mais pareil ?» demanda Marguerite. « Exactement pareil, cette ligne seulement. Vous êtes attendu rue Saint-Antoine en face de la rue de Jouy. »« Et pas de signature sur ce billet ?» demanda Marguerite. « Non, mais trois mots charmants, qui promettaient trois fois la même chose, c'est-à-dire un triple bonheur. Et quels étaient ces trois mots ?« Eros, Cupido, Amor. » En effet, ce sont trois doux noms, et ont-ils tenu ce qu'ils promettaient ?« Oh, plus, madame, 100 fois plus !» s'écria la Mole avec enthousiasme. « Continuez, je suis curieuse de savoir ce qui vous attendait, rue Saint-Antoine, en face de la rue de Jouy. » Deux duègnes avec chacune un mouchoir en main, il s'agissait de nous laisser bander les yeux. Votre Majesté devine que nous n'y fîmes point de difficulté, nous tendîmes bravement le cou. Mon guide me fit tourner à gauche, le guide de mon ami le fit tourner à droite, et nous nous séparâmes. « Et alors ?» continua Marguerite, qui paraissait décidée à pousser l'investigation jusqu'au bout. « Je ne sais, reprit la Mole, où son guide conduisait mon ami, en enfer peut-être, mais quant à moi, ce que je sais, c'est que le mien me mena en un lieu que je tiens pour le paradis, et d'où vous fit sans doute chasser votre trop grande curiosité. » « Justement, madame, et vous avez le don de la divination. J'attendais le jour avec impatience pour voir où j'étais, quand, à 4h30, la même duègne est entrée, m'a bandé de nouveau les yeux, m'a fait promettre de ne point chercher à soulever mon bandeau, m'a conduit dehors, m'a accompagné 100 pas, m'a encore fait jurer de noter mon bandeau que lorsque j'aurais compté jusqu'à 50. J'ai compté jusqu'à 50 et je me suis retrouvé rue Saint-Antoine, en face de la rue de Jouy. Et alors ?» Alors, madame, je suis revenu tellement joyeux que je n'ai point fait attention aux 4 misérables des mains desquelles j'ai eu tant de mal à me tirer. Or, madame, continua la Mole en retrouvant ici un morceau de ma plume, mon cœur a tressailli de joie et je l'ai ramassé en me promettant moi-même de le garder comme un souvenir de cette heureuse nuit. Mais au milieu de mon bonheur, une chose me tourmente, c'est ce que peut être devenu mon compagnon. Il n'est donc pas rentré au Louvre. Hélas, non, madame, je l'ai cherché partout où il pouvait être, à la Belle Étoile, au Jeu de Paume, et en quantité d'autres lieux honorables, mais d'Annibal, point, et de Coconas, pas davantage. En disant ces paroles, en les accompagnant d'un geste lamentable, la Mole ouvrit les bras et écarta son manteau, sous lequel on vit bailler à divers endroits son pourpoint qui montrait comme autant d'élégants crevés la doublure par des accrocs. « Mais vous avez été criblé, dit Marguerite. « Criblé, c'est le mot, dit la Mole, qui n'était pas fâchée de se faire un mérite du danger qu'il avait couru. « Voyez, madame, voyez. « Mais comment n'avez-vous pas changé de pourpoint au Louvre, puisque vous y êtes retourné ?» demanda la reine. « Ah, dit la Mole, c'est qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre. « Comment, quelqu'un dans votre chambre ?» dit Marguerite, dont les yeux exprimèrent le plus vif étonnement. « Qui était donc dans votre chambre ?» Son Altesse. Chut, interrompit Marguerite. Le jeune homme obéit. Qui atlectica meam stant? Demanda-t-elle à la môle qui est à ma portière. Duo pueri et unus eques, deux pages et un écuyer. Optime barbari, dit-elle. Dic moles, quem in veneris in biculo tuo? Bon, ce sont des barbares, dites-moi la môle, qui avez-vous trouvé dans votre chambre? Franciscum ducem, le duc François. Agentem? Faisant? Nescio quid? Je ne sais quoi. Quocum? Avec? Cub ignoto, avec un inconnu. C'est bizarre, dit Marguerite. Ainsi, vous n'avez pu trouver Coconas, songea-t-elle, sans songer évidemment à ce qu'elle disait. Aussi, madame, comme j'avais l'honneur de le dire à votre majesté, j'en meurs véritablement d'inquiétude. Eh bien, dit Marguerite en soupirant, je ne veux pas vous distraire plus longtemps de sa recherche, mais je ne sais pourquoi, j'ai l'idée qu'il se retrouvera tout seul. N'importe, allez toujours. Et la reine appuya son doigt sur sa bouche. Or, comme la belle Marguerite n'avait confié aucun secret, n'avait fait aucun aveu à la môle, le jeune homme comprit que ce geste charmant, ne pouvant avoir pour but de lui recommander le silence, devait avoir une autre signification. Le cortège se remit en marche, et la môle, dans le but de poursuivre son investigation, continua de remonter le quai jusqu'à la rue du Pont-Long, qui le conduisit dans la rue Saint-Antoine. En face de la rue de Jouy, il s'arrêta. C'était là que, la veille, les deux duègnes leur avaient bandé les yeux à lui et à Coconas. Il avait tourné à gauche, puis il avait compté 20 pas, il recommença le même manège, et se trouva en face d'une maison, ou plutôt d'un mur, derrière lequel s'élevait une maison. Au milieu de ce mur était une porte à auvent, garnie de clous larges et de meurtrières. La maison était située rue Cloche-Percée, petite rue étroite qui commence à la rue Saint-Antoine et aboutit à la rue du Roi de Sicile. « Par l'assemblée, dit la môle, c'est bien là, j'en jurerai. » Et étendant la main, comme je sortais, j'ai senti les clous de la porte, puis j'ai descendu 2 degrés. Cet homme qui courait en criant « à l'aide » et qu'on a tué rue du Roi de Sicile passait au moment où je mettais le pied le premier. « Voyons !» La môle alla à la porte et frappa. La porte s'ouvrit et une espèce de concierge à moustache vint ouvrir. « Vasistas ?» demanda le concierge. « Ah, dit la môle, il paraît que nous sommes Suisses. Mon ami, continua-t-il, et prenant son air le plus charmant, je voudrais avoir mon épée que j'ai laissée dans cette maison où j'ai passé la nuit. »« Ich verstehe nicht, dit le concierge, que j'ai laissé mon épée, je l'ai laissée. »« Ich verstehe nicht, dans cette maison où j'ai passé la nuit. »« Geh zum Teufel !» Et il lui referma la porte au nez. « Mon Dieu, dit la môle, si j'avais cette épée que je réclame, je la lui passerais volontiers à travers le corps, ce drôle-là, mais je ne l'ai point, ce sera pour un autre jour. » Sur quoi la môle continua son chemin jusqu'à la rue du Roi de Sicile, prit à droite, fit 50 pas à peu près, prit à droite encore et se trouva rue Tison, petite rue parallèle à la rue Cloche-Percée et en tout point semblable. Il y eut plus, à peine eut-il fait 30 pas, qu'il retrouva la petite porte à large clou, à auvent et à meurtrière, les 2 degrés et le mur. On eût dit que la cloche percée s'était retournée pour le voir passer. La môle réfléchit alors qu'il avait bien pu prendre à droite pour à gauche, et il alla frapper à cette porte pour y faire la même réclamation qu'il avait faite à l'autre, mais cette fois, il eut beau frapper, on n'ouvrit même pas. La môle fit et refit 2 ou 3 fois le même tour qu'il venait de faire, ce qui l'amena à cette idée toute naturelle que la maison avait 2 entrées, l'une sur la rue Cloche-Percée, l'autre sur la rue Tison. Mais ce raisonnement, si logique qu'il fût, ne lui rendait pas son épée et ne lui apprenait pas où était son ami. Il eut un instant l'idée d'acheter une autre épée et d'éventrer le misérable portier qui s'obstinait à ne parler qu'allemand, mais il pensa que si ce portier était à Marguerite et que si Marguerite l'avait choisi ainsi, c'est qu'elle avait ses raisons pour cela et qu'il lui serait peut-être désagréable d'en être privé. Or, la môle, pour rien au monde, n'eût voulu faire une chose désagréable à Marguerite. De peur de céder à la tentation, il reprit donc vers les 2 heures de l'après-midi le chemin du Louvre. Comme son appartement n'était point occupé cette fois, il put rentrer chez lui. La chose était assez urgente relativement au pourpoint qui, comme lui avait fait observer la reine, était considérablement détérioré. Il s'avança donc incontinent vers son lit pour substituer le beau pourpoint gris perle à celui-là, mais à son grand étonnement, la première chose qu'il aperçut près du pourpoint gris perle fut cette fameuse épée qu'il avait laissée rue Cloche-Percée. La Mole la prit, la tourna, la retourna, c'était bien elle. « Ah » fit-il, « est-ce qu'il y aurait quelque magie là-dessous ?» Puis, avec un soupir, « Ah, si le pauvre Coconasse se pouvait retrouver comme une épée !» 2 ou 3 heures après que la Mole avait cessé sa ronde circulaire tout autour de la petite maison double, la porte de la rue Tison s'ouvrit. Il était 5 heures du soir à peu près, et par conséquent, nuit fermée. Une femme, enveloppée dans un long manteau garni de fourrure, accompagnée d'une suivante, sortit par cette porte que lui tenait ouverte une duègne d'une 40aine d'années, se glissa rapidement jusqu'à la rue du Roi de Sicile, frappa à une petite porte de la rue d'Argenson qui s'ouvrit devant elle, sortit par la grande porte du même hôtel qui donnait rue Vieille du Temple, et alla gagner une petite poterne à l'hôtel de Guise, l'ouvrit avec une clé qu'elle avait dans sa poche et disparut. Une demi-heure après, un jeune homme, les yeux bandés, sortit par la même porte de la même petite maison, guidé par une femme qui le conduisit au coin de la rue Geoffroy-Lanier et de la Mortellerie. Là, elle l'invita à compter jusqu'à 50 et à ôter son bandeau. Le jeune homme accomplit scrupuleusement la recommandation et, au chiffre convenu, ôta le mouchoir qui lui couvrait les yeux. « Mordi ! » s'écria-t-il en regardant tout autour de lui. « Et si je sais où je suis, je veux être pendu !»« 6 heures !» s'écria-t-il en entendant sonner l'horloge de Notre-Dame. « Et ce pauvre La Mole, que peut-il être devenu ? Allez, courons l'ouvre, peut-être là en saura-t-on des nouvelles !» Et se disant, Coconas descendit tout courant la rue de la Mortellerie et arriva aux portes du Louvre en moins de temps qu'il n'eût fallu à un cheval ordinaire. Il bouscula et démolit sur son passage cette haie mobile de braves bourgeois qui se promenait paisiblement autour des boutiques de la place Baudoyer et entra dans le palais. Là, il interrogea Suisse et Sentinelle. Le Suisse croyait bien avoir vu entrer M. de la Mole le matin, mais il ne l'avait pas vu sortir. La Sentinelle n'était là que depuis 1 heure et demie et n'avait rien vu. Il monta tout courant à la chambre et en ouvrit la porte précipitamment, mais il ne trouva dans la chambre que le pourpoint de la Mole tout lacéré, ce qui redoubla encore ses inquiétudes. Aussi il songea à La Hurière et courut chez le digne hôtelier de la Belle Étoile. La Hurière avait vu la Mole avait déjeuné chez La Hurière, Coconas fut donc entièrement rassuré, et comme il avait grand faim, il demanda à souper à son tour. Coconas était dans les 2 dispositions nécessaires pour bien souper, il avait l'esprit rassuré et l'estomac vide. Il soupa donc si bien que son repas le conduisit jusqu'à 8 heures. Alors, réconforté par 2 bouteilles d'un petit vin d'Anjou qu'il aimait fort et qu'il venait de sabler avec une sensualité qui se trahissait par des clignements d'yeux et des clappements de langue réitérés, il se remit à la recherche de la Mole, accompagnant cette nouvelle exploration à travers la foule de coups de pied et de coups de poing proportionnés à l'accroissement d'amitié que lui avait inspiré le bien-être qui suit toujours un bon repas. Cela dura 1 heure. Pendant 1 heure, Coconas parcourut toutes les rues, avoisinant le quai de Grève, le pont Charbon, la rue Saint-Antoine et les rues Tison et Cloche-Percée, où il pensait que son ami pouvait être revenu. Enfin, il comprit qu'il y avait un endroit par lequel il fallait qu'il passât, c'était le guichet du Louvre, et il résolut d'aller l'attendre sous ce guichet jusqu'à sa rentrée. Il n'était plus qu'à 100 pas du Louvre et remettait sur ses jambes une femme dont il avait déjà renversé le mari, place Saint-Germain-l'Auxerrois, lorsqu'à l'horizon il aperçut devant lui, à la clarté douteuse d'un grand fanal dressé près du pont-levis du Louvre, le manteau de velours cerise et la plume blanche de son ami, qui, déjà pareil à une ombre, disparaissait sous le guichet en rendant le salut à la sentinelle. Le fameux manteau cerise avait fait tant d'effet de par le monde qu'il n'y avait pas à s'y tromper. « Eh, mordi, c'est Caconas, c'est bien lui cette fois, et le voilà qui rentre. Eh, eh, la Mole, eh, mon ami, peste, j'ai pourtant une bonne voix. Comment se fait-il qu'il ne m'ait pas entendu ? Mais par bonheur, j'ai aussi bonne jambe que bonne voix, et je vais le rejoindre. » Dans cette espérance, Coconas s'élança de toute la vigueur de ses jarrets, arriva en un instant au Louvre, mais quelque diligence qu'il eût faite au moment où il mettait le pied dans la cour, le manteau rouge, qui paraissait fort pressé aussi, disparaissait sous le vestibule. « Oh, la Mole !» s'écria Coconas en reprenant sa course. « Attends-moi donc, c'est moi, Coconas. Que diable as-tu à courir ainsi ? Est-ce que tu te sauves par hasard ?» En effet, le manteau rouge, comme s'il eût des ailes, escaladait le second étage plutôt qu'il ne le montait. Ah, tu ne veux pas m'entendre, cria Coconas. Ah, tu m'en veux, ah, tu es fâché. Eh bien, diable, mordi, quant à moi, je n'en puis plus. C'était au bas de l'escalier que Coconas lançait cette apostrophe au fugitif qu'il renonçait à suivre des jambes, mais qu'il continuait à suivre de l'œil à travers la vis de l'escalier et qui était arrivé à la hauteur de l'appartement de Marguerite. Tout à coup, une femme sortit de cet appartement et prit celui que poursuivait Coconas par le bras. « Oh !» fit Coconas, « cette dame a l'air d'être la reine Marguerite. Il était attendu alors cette autre chose, je comprends, qu'il ne m'ait pas répondu. » Et il se coucha sur la rampe, plongeant son regard par l'ouverture de l'escalier. Alors, après quelques paroles à voix basse, il vit le manteau cerise suivre la reine chez elle. « Eh, bon, bon !» dit Coconas, « c'est cela. » Je ne me trompais point. Il y a des moments où la présence de notre meilleur ami nous est importune et c'est cher la molle, et dans un de ces moments-là, et Coconas, montant doucement les escaliers, s'assit sur un banc de velours qui garnissait le palier même en se disant, soit, au lieu de le rejoindre, j'attendrai, oui, mais, ajouta-t-il, j'y pense, il est chez la reine de Navarre, de sorte que je pourrais bien attendre longtemps, il fait froid, mordi, allons, allons, j'attendrai aussi bien dans ma chambre, il faudra toujours bien que j'y rentre quand le diable y serait. Il achevait à peine ses paroles et commençait à mettre à exécution la résolution qui en était le résultat lorsque un pas allègre et léger retentit au-dessus de sa tête, accompagné d'une petite chanson si familière à son ami que Coconas tendit aussitôt le cou vers le côté d'où venait le bruit du pas et de la chanson. C'était la môle qui descendait de l'étage supérieur, celui où était située sa chambre, et qui, apercevant Coconas, se mit à sauter quatre à quatre les escaliers qui le séparaient encore de lui, et, cette opération terminée, se jeta dans ses bras. « Eh, mordi, c'est toi, » dit Coconas. « Eh, par où diable es-tu donc sorti ?»« Eh, par la rue Clochepercée, par Dieu. »« Non, je te dis pas de la maison là-bas. »« Et d'où ?»« Eh, de chez la reine. »« De chez la reine ?» De chez la reine de Navarre, ben, je n'y suis pas entré. Allons donc. Mon cher Hannibal, dit la molle, tu déraisonnes, je sors de ma chambre où je t'attends depuis 2 heures. Tu sors de ta chambre? Oui. Ce n'est pas toi que j'ai poursuivi sur la place du Louvre? Quand cela? À l'instant même. Non. Ce n'est pas toi qui as disparu sous ce guichet il y a 10 minutes? Non. Ce n'est pas toi qui viens de monter cet escalier comme si tu étais poursuivi par une légion des diables? Non. Mordi, s'écria Coconas, le vin de la belle étoile n'est point assez méchant pour m'avoir tourné à ce point la tête. Je te dis que je viens d'apercevoir ton manteau cerise et ta plume blanche sous le guichet du Louvre que j'ai poursuivi l'un et l'autre jusqu'au bas de cet escalier et que ton manteau, ton plumeau, tout jusqu'à ton bras qui fait le balancier était attendu ici par une dame que je soupçonne fort d'être la reine de Navarre, laquelle a entraîné le tout par cette porte qui, si je ne me trompe, est bien celle de la belle Marguerite. « Mordieu, dit la moule en pâlissant, y aurait-il déjà trahison ? À la bonne heure, dit Coconas, jure tant que tu voudras, mais ne dis plus que je me trompe. » La moule hésita un instant, serrant sa tête entre ses mains et retenue entre son respect et sa jalousie. Mais sa jalousie l'emporta et il s'élança vers la porte à laquelle il commença à heurter de toutes ses forces et qui produisit un vacarme assez peu convenable, eu égard à la majesté du lieu où l'on se trouvait. « Nous allons nous faire arrêter, » dit Coconas, « mais qu'importe, c'est bien drôle. Dis donc, la molle, est-ce qu'il y aurait des revenants au Louvre ?»« Je n'en sais rien, » dit le jeune homme aussi pâle que la plume qui ombrageait son front, « mais j'ai toujours désiré en voir, et comme l'occasion s'en présente, je ferai de mon mieux pour me trouver face à face avec celui-là. » « Je ne m'y oppose pas, » dit Coconas, « seulement frappe un peu moins fort si tu ne veux pas l'effaroucher. » La molle, si exaspérée qu'il fût, comprit la justesse de l'observation et continua de frapper, mais plus doucement.